mode d'emploi.
Bienvenue donc sur Mode d'emploi, séquence secret de fabrication, comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois, donc sur RFPP, donc 106.3 FM ou www.rfpp.net. Donc, bien entendu, cette émission est ouverte. Hein, vous pouvez appeler au standard, dont je me rappelle plus le numéro. Donc, seuls les aficionados, les vrais, pourront appeler. Voilà, c'est comme ça. 01 40 05 06 10, merci la régie. Bon voilà, donc l'antenne est libre comme d'habitude. Alors ce soir on va parler du secteur du commerce et notamment de la résistance à la dégradation des conditions de travail dans le secteur du commerce. Une résistance multiforme, hein, j'ai bien compris, on va à la fois voyager dans des petites enseignes du commerce, dans l'Assemblée nationale et les crasses qu'elle nous fait avec la loi travail, et aussi à l'international puisque on va voyager. Alors, on va voyager en compagnie de Moussa. Moussa.
Bonsoir.
Voilà. Donc, Moussa, si j'ai bien suivi, tu es délégué du personnel et membre du comité d'entreprise et de l'entreprise New Look.
C'est ça, oui.
Voilà, c'est ça, qui est l'entreprise New Look, qui est un groupe...
C'est un groupe anglais. Hein.
Un groupe anglais,
ouais.
De...
Prêt-à-porter.
De prêt-à-porter, voilà. Donc, on est bien dans le commerce, hein, donc commerce du prêt-à-porter. Tu es également défenseur syndical.
Exact.
D'accord. Donc tu défends, c'est-à-dire que tu défends les salariés devant les
prud'hommes. Oui.
Devant les prud'hommes, d'accord. Et donc la nouvelle, nous, ce qui nous a un peu surpris quand on a commencé à discuter avec toi, Moussa, c'est que en fait, la question des conditions de travail, c'est pas une petite question dans le commerce, hein. C'est ça, hein.
Ouais, c'est. Ça devient compliqué là.
Ça devient compliqué.
Ouais, ouais. Hein.
Et on va voir qu'il y a toute une série de questions qu'on a, enfin de questions et de problèmes et de dangers qu'on a plutôt tendance à associer avec d'autres secteurs, hein, comme on verra, comme l'industrie ou le bâtiment, mais qui en fait frappe de plein fouet les salariés du commerce.
Ouais, là ça commence à être quand même assez répandu, on va dire.
Ouais, répandu. Alors, qu'est-ce que pour commencer, c'est quoi le gros nœud des problèmes qu'on trouve dans le commerce et qui font que des salariés ont des problèmes, y compris des problèmes de santé.
Bah, il y a une charge de travail quand même considérable.
Mm-hmm.
Dans mon entreprise, ça devient assez prononcé depuis environ, on va dire un an et demi à deux ans. Il y a quand même des conditions de travail qui sont fortement dégradées.
Mm-hmm.
Donc voilà, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai dû déclencher plusieurs droits d'alerte.
Mm-hmm. On reviendra sur les droits d'alerte, oui,
voilà.
Effectivement.
Donc ça devient quand même problématique aujourd'hui, surtout avec la fameuse loi de travail. Ça, je pense que ça ne facilitera pas les choses.
Non,
alors juste pour expliquer à ceux qui nous écoutent qu'ils ne sauraient pas, un droit d'alerte.
Mm-hmm.
Donc le droit d'alerte peut être déclenché par les représentants du personnel au CHSCT ou par les DP, ce qui est peut-être moins connu et moins utilisé, quand un salarié se retrouve dans une situation qu'on appelle de danger grave et imminent.
Alors s'il y a une discrimination avérée, quelle qu'elle soit, des conditions de travail qui se dégradent, on est amené à déclencher un droit d'alerte.
Un droit d'alerte. Et ce droit d'alerte entraîne quoi ? Une enquête obligatoire ?
Voilà, une enquête. Alors donc c'est le délégué personnel qui en informe la DRH ou le directeur de l'entreprise.
Mm-hmm.
Et qui demande à faire une enquête sur un lieu bien défini.
D'accord. Et toi, tu parlais d'un droit d'alerte que tu as déclenché en tant que DP. C'était sur quelle situation ?
Alors c'est la situation d'un salarié qui était victime un peu de brimade de sa hiérarchie.
Mmh.
Au sein de son magasin.
Mmh.
Donc voilà, à cet effet, il m'a contacté pour me faire part de ses problèmes. Donc moi j'en ai informé dans un premier temps la DRH pour qu'elle somme les managers de cesser leur agissement. Donc moi j'ai voulu faire mon enquête, j'ai vraiment insisté pour faire mon enquête au départ. Elle a un peu tempéré là-dessus. Donc moi je me suis dit bon, peut-être que ça va s'arranger du coup.
Mmh, mmh.
Mais il se trouve que ça s'est jamais arrangé, donc ça a continué à perdurer. Donc moi après, plus tard, j'ai rencontré la DRH avec un autre membre du personnel pour insister et je lui ai dit que j'allais faire mon enquête quoi qu'il en soit.
Mmh.
Voilà.
Et tu as pu faire ton enquête ?
J'ai pu faire mon enquête, mais quand même deux mois après. Hein.
D'accord, ouais. C'est une galère, ne serait-ce que pour enclencher la procédure.
Ils sont très réticents parce que la DRH quand même est obligée de se déplacer pour cette enquête parce que c'est toujours mieux de la faire conjointement.
Mmh.
Alors tu peux la faire tout seul, mais c'est toujours mieux de la faire conjointement, l'enquête, pour dans un suite transparence. Voilà.
Donc on parlait de ça parce que tu parlais de conditions de travail dégradées, donc j'entends que les brimades font partie de conditions de travail qui sont pas bonnes, mais est-ce qu'il y a d'autres problèmes de conditions de travail?
Bah on veut casser le lien social entre les salariés, en fait. C'est ce que moi j'ai constaté. Bah un exemple tout bête, quand des collègues discutent entre eux, comme ça peut arriver partout, hein, bah on dit aux gens, bah vous discutez pas, vous évitez de discuter ou sinon ça va mal aller, en fait.
On interdit aux gens de parler entre eux, en fait.
C'est quasiment ça.
Ouais. Ouais.
Voilà.
Et à quel but? C'est quoi l'intérêt? Enfin, on voit pas très bien.
Alors le but de ça, je sais pas, je pourrais pas te dire exactement. Quel est le but de ça? Mais je sais pas. On veut, pour moi, on veut casser le lien. C'est la convivialité qu'on peut avoir entre collègues, hein, parce que on est 80% du temps au travail. Donc c'est toujours bien d'avoir un peu. En fait, moi, ce que je déduis de tout ça, c'est que je pense que pour le patron de manière générale, c'est pas bon pour lui s'il a des salariés qui sont entre guillemets soudés, qui sont proches, qui s'entendent bien. Il va toujours préférer avoir des salariés qui se bouffent entre eux, on va dire.
Ouais.
Ça vulgairement. Hein.
Ouais.
C'est ce que moi je pense.
Ouais. Donc éclater le collectif de travail pour éviter de générer en fait de la fraternité.
C'est ça.
Et donc de la solidarité.
C'est ça.
D'accord. Parce que quand ça commence à chauffer, il vaut mieux que les salariés soient s'éparpillent plutôt que.
C'est ça, c'est comme on dit, diviser pour mieux régner.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Donc voilà. C'est ce que moi je pense.
D'accord. Ouais. Effectivement, ça du point de vue des. Et t'as d'autres exemples comme ça de restrictions des droits qui sont pas justifiées. Comment on fait dans ces cas-là? T'as un exemple?
J'ai un autre exemple assez marrant. Hein. C'est les gestionnaires de stock, hein, donc les gens qui sont amenés à travailler dans les stocks, qui gèrent tout ce qui est flux de marchandises. J'ai un exemple tout bête où il y a des stockeurs à qui on interdit de mettre la musique, par exemple. Ces gens-là sont amenés à travailler en sous-sol et très très vraiment reclus par rapport aux autres salariés, c'est-à-dire les vendeurs. Et on interdit à ces gens-là de mettre de la musique.
Donc ils peuvent pas mettre leur radio.
On leur dit non, vous mettez pas votre radio, c'est gênant. Je vois pas en quoi c'est gênant, mais bon.
Ils sont pas en contact avec la clientèle.
Non, pas directement, non.
D'accord.
Donc ça rappelle vraiment la discipline scolaire.
C'est un peu ça, hein.
Et j'ai même quelque chose de cet ordre-là.
J'ai même encore un exemple qui me vient à l'esprit. On refuse à des personnes d'aller aux toilettes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent aller aux toilettes. Faut que tu viennes me dire quand tu vas aux toilettes.
C'est ça, tout à fait.
Ça, c'est l'école maternelle.
Faut lever la main.
Dans l'ordre.
Voilà, c'est ça, c'est l'école maternelle en fait.
Ouais.
Donc voilà.
Et du coup, tu parlais des stocks, mais du coup, j'associe au port et aux manutentions de charges lourdes. Est-ce que c'est un problème qui se pose?
Ah oui, c'est un problème qui s'est posé en octobre. Donc j'en avais parlé avec tous les élus qui sont dans l'entreprise. Où j'avais interpellé sur le fait que les magasins avaient eu un afflux de box très important.
De box.
Voilà, des box. J'explique, c'est les containers où arrive la livraison. Voilà. Donc on en a eu sur un magasin comme Créteil, il y avait eu, je crois de mémoire, 278.
Ouais.
Exactement. Pour
d'un
un
coup.
D'un coup, ouais, pour un nombre de salariés très réduit, c'est-à-dire 6 pour de mémoire. Voilà. Et donc nous, moi j'avais sondé un peu les délégués du personnel, hein, avec ou sans étiquette, et j'avais dit qu'il fallait provoquer une réunion extraordinaire pour savoir pourquoi autant de livraisons pour si peu de main d'œuvre entre guillemets. Le problème c'est pas l'afflux de livraisons, c'est les moyens humains en fait qu'on met en place, parce que s'il y a pas de moyens humains, il faut pas intérêt. Voilà.
Et donc d'un coup, alors nos 6 salariés, ils ont été obligés de traiter 278 box. Ça fait quelle taille à peu près?
Alors la taille, je crois que ça doit faire 2 mètres de largeur pour peut-être, je sais pas, 70 centimètres de hauteur à peu près.
Et ça pèse?
Ça doit peser entre 15 et 20 kilos peut-être.
Ah oui, d'accord.
Pour les plus lourds.
D'accord. Ouais. Il y en a 278 à traiter comme ça.
Bah il y en a eu une période où il y en a eu. Alors ça c'est plus significatif. Hein. Après en général ça doit pas être autant. Mais pour cette période-là où il y en avait eu sur un magasin, j'en avais compté 278.
Ouais.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as voulu déclencher une réunion extraordinaire?
Bah j'ai sondé les autres pour pas qu'on dise que je fais les choses dans mon coin. Donc moi j'ai envoyé un mail à la directrice des ressources humaines pour lui demander une réunion extraordinaire pour avoir le fin mot de l'histoire et de savoir pourquoi il y avait autant de livraisons pour si peu de moyens humains, parce que j'ose espérer que s'il y a autant de livraisons, on prévoit les moyens humains en conséquence, on anticipe, je sais pas, hein, c'est une question que je me pose. Et le jour de la réunion, on n'a pas été trop
entendu.
Hein. On n'a pas eu les réponses à ce qu'on voulait, en fait.
Mais ces pics de livraison, c'est brut, c'est des coups d'accélérateur, en fait. Il y a des moments où c'est vraiment le coup de feu, c'est ça, et tout se passe dans tout. Enfin, ça doit être assez infernal.
Alors, eux nous disent que ces livraisons-là, ils n'étaient pas au courant, bizarrement. Et ils disent que, de toute façon, les moyens humains étaient prévus. Mais sauf qu'il y a des gens qui se plaignaient. Il y a des gens qui portent des ceintures lombaires.
Ouais.
Voilà, il y a des gens qui ont 25 ans qui portent des ceintures lombaires.
À 25 ans.
Ouais.
Ah ouais. Et c'est du fait de devoir transposer sans arrêt.
Bah ouais, des charges au travail constamment. En plus, ils n'ont pas forcément le matériel adapté pour transporter. Ils sont souvent en train de saouler. Il y a des gens qui me disaient aussi, moi quand je rentre chez moi, je peux pas faire de sport ou je peux pas aller me balader parce que je suis fatigué, quoi.
Les gens sont cassés, en fait.
Ah, ils sont cassés, quoi. Ouais.
Mais tu parles de gens de 25 ans, c'est quoi à peu près le profil majoritaire des salariés? C'est plutôt des gens jeunes?
Oui, il y a beaucoup de gens jeunes. Après, on a un certain pourcentage de personnes d'un certain âge, mais qui avaient été repris avant sur une autre entreprise.
D'accord.
Donc voilà, qui sont restés, mais... C'est beaucoup, beaucoup,
d'accord,
de, beaucoup de jeunes.
Hein. Dominante de moins de 30 ans.
Ouais, moins de 30 ans. La moyenne d'âge de mémoire, c'est 35 ans.
D'accord, la moyenne.
La
d'accord.
moyenne.
Et en termes de statut d'emploi, on est dans quel type d'emploi? On a du CDI, du CDD,
alors,
d'autres contrats précaires?
Alors le CDI, aujourd'hui, ça devient très rare. Hein. On a beaucoup recours à l'intérim hein, chez New Look, hein, aujourd'hui. Hein. Je crois que c'est la mode. Hein. On veut précariser de plus en plus le travail. Et c'est aussi, je pense, une manière de tenir les gens. À savoir s'il y a des gens qui sont un peu trop récalcitrants. On donne des CDD ou des intérimaires.
D'accord.
Puis l'intérimaire, c'est pas... Sans dénigrer l'intérimaire, c'est pas, ça ne donnera pas le même investissement qu'un CDI ou voire un CDI de longue durée.
Ouais.
Donc voilà, il y a des gens qui sont de passage, ils font le strict minimum. Et voilà. Mais aujourd'hui, voilà...
Et ils se blessent aussi, hein, les intérimaires, ils ont...
Moi, j'ai pas connaissance d'intérimaires qui se blessent, mais voilà.
Parce que...
Ben oui, moi, je crois qu'on a pensé à la même chose, parce que, en général, c'est assez éclairant de demander, dans ce type de situation, comment ça se passe quand il y a un accident du travail. Est-ce que tu as en mémoire un accident du travail et comment il a été géré?
Alors moi, assez récemment, c'est-à-dire fin novembre, j'ai une salariée qui m'a contacté, alors qui m'a fait état de son accident de travail. Donc elle a un accident de travail depuis le 15 octobre 2015. Donc elle est montée sur une échelle, une grande échelle, hein, d'ailleurs qui sont interdits à l'utilisation.
Dans le magasin.
Bah, elle était dans les réserves quand elle est tombée.
D'accord.
Voilà, donc elle était dans les réserves. Elle était, elle faisait de l'équitage ou un truc de ce genre. Elle est tombée, donc elle est très mal tombée. En fait, le bas de son dos a frappé sur un bout de l'échelle. Et du coup, ça fait mal. Elle a même fini à l'hôpital, fini aux urgences et tout. Et à ce jour, elle est fortement handicapée. Donc aujourd'hui, elle peut plus rester trop longtemps debout. Elle marche avec une béquille.
Et à quel âge?
25 ans.
Aussi.
Ouais. 25 ans.
Waouh.
Et elle se gave de médicaments, donc les antidouleurs. Voilà.
Et ça, c'était il y a 4 mois.
Non, c'est 3 mois. Un an. Ça fait un an qu'elle est.
Ah, ça fait un an.
Ah oui, elle est en train de travailler depuis un an.
Ah, c'est novembre de l'année d'avant,
ouais,
de 2015. D'accord.
Depuis 15 octobre 2015, pardon.
Ah ouais.
Et tu vois, ce qui me vient tout de suite, c'est un accident comme ça. Est-ce que ça a été de nature à ce que les salariés se mettent en action, râlent, revendiquent, résistent à des conditions de travail dégradées?
Le problème de chez New Look, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de salariés qui sont d'accord avec nous, mais je pense qu'il y a des gens qui ont peur de le montrer ouvertement, parce que il y a toujours la peur de perdre son boulot. Et puis aussi, j'ai l'impression qu'on essaie d'individualiser de plus en plus les gens. Donc les gens, même s'ils sont de ton côté, ils vont pas te le montrer ouvertement, surtout moi qui est dans ma situation. Montrer qu'on soutient, c'est pas forcément très bien vu.
Effectivement, on reviendra là-dessus. Hein.
Voilà, c'est pas très bien vu. Voilà.
Suite,
donc, c'est un peu dommage, mais on peut pas leur en vouloir aux gens qui. Il y a des gens qui ont plus de cran que d'autres. Hein. C'est dans la nature. C'est comme ça. C'est. Mais voilà, on a le soutien, mais je veux dire ouvertement, il y a pas forcément qui le montre. Après, moi, comme j'expliquais, au niveau de là où je travaille, j'ai le soutien de mes collègues. sans retenue, il n'y a pas de problème
on
là-dessus.
On verra ça effectivement dans l'émission, comment ça se passe concrètement de ce côté-là. Ouais, donc ce que j'entends, c'est qu'en fait, il y a bien une raison. Enfin, on voit bien ce que tu disais au début sur l'éclatement du lien social. Ça sert à ça aussi, quoi. Ça sert à ce que quand il y a quelqu'un qui se fait mal ou qui a un accident, il n'y a pas de solidarité spontanée comme ça qui émerge, quoi. C'est
non, les gens hésitent parce que les gens ont peur des représailles éventuelles.
Ouais,
hein.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Mm-hmm. On essaye, encore une fois, diviser pour mieux régner.
Ouais.
Donc, on essaie d'éteindre le sentiment de solidarité qui peut rester dans les entreprises.
Ouais. Mm-hmm.
Voilà, c'est ça. C'est ça aujourd'hui le problème. Mm-hmm. Dans toutes les luttes qu'on peut voir ici ou là, bah, on essaie d'éteindre un peu, chacun essaie un peu de son côté. Il essaie de protéger son petit confort. Voilà.
Ouais, c'est un objectif. Juste pour l'information des auditeurs, c'est à peu près quoi la taille des enseignes? Il y a combien de salariés dans une enseigne donnée, dans un magasin donné?
Alors, ça dépend parce que les magasins n'ont pas tous la même
D'accord.
taille. Alors, pour te donner le plus grand, le Switch Châtel, c'est pas le plus grand, mais c'est l'un des plus importants en staff. Il y a à peu près une cinquantaine de personnes.
Ah, quand même.
Ouais, non, c'est des grosses, un gros truc.
C'est des assez grosses enseignes.
Ouais, c'est un gros truc.
Ouais, ouais. Et donc ça, à 50, il y a un comité d'établissement?
Alors, les délégués du personnel sont régionaux.
D'accord.
Voilà.
OK.
Et le CE est national.
D'accord.
Voilà. Donc okay. Les DP sont régionaux.
D'accord, régionaux. Okay.
Voilà.
Donc toi, tu as logiquement, normalement, la capacité d'intervenir sur n'importe quel niveau de l'Île-de-France.
Voilà, c'est
D'accord.
ça.
D'accord, OK. Et des fois, on te bloque là-dessus, c'est compliqué de prendre les heures de délégation?
Non, mais moi, les heures de délégation, je les prends, quoi qu'il arrive, hein. De toute façon, moi, je leur ai bien fait comprendre. Moi, une fois, on a voulu m'empêcher de partir en délégation. Je pars en délégation. Tu me sanctionnes, mais après, à mon avis,
ça va pas
tu te feras retoquer.
Ouais.
Donc, non, là-dessus, moi, je les prends, y a pas de problème.
D'accord, ok. Ouais. Faut vouloir quand même.
D'ailleurs, l'entreprise avait signé récemment un accord sur le dialogue social.
Mm-hmm.
Où on essayait un peu de faire de l'entrave sur nos heures de délégation. En gros, vous devez prévenir 48 heures avant, sinon quelqu'un vous paiera pas.
Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, l'accord sur le dialogue social, c'est pour encadrer la délégation en réalité, quoi.
Entre autres, il y avait ça qui était. Nous, on avait expliqué qu'en réunion, c'était illégal.
Ouais, bah ouais.
Et voilà, donc il y a pas de problème. De toute façon, c'est en cours là. C'est en train de voir ce qu'on peut faire, mais voilà.
Donc, on voit que il y a une forte pression, il y a des conditions de travail qui sont rudes, hein, mm-hmm. comme on disait, on avait plutôt l'impression chute de hauteur, douleur lombaire, incapacité de décompresser en rentrant du travail, épuisement, etc. Donc on associe plutôt ça à la chaîne de montage ou au bâtiment ou des trucs comme ça. Mais c'est dans le commerce que ça se passe et ça se passe pas que, pas que New Look, quoi. Mm-hmm. On est dans le commerce. Dans des enseignes, d'autres enseignes, on retrouve les mêmes situations, quoi.
Oui, parce que moi, étant membre du bureau à Sud Commerce, mm-hmm. On a eu récemment des appels de salariés de d'autres enseignes mm-hmm. concurrentes où il y a aussi des problèmes de cet ordre-là.
De cet ordre-là, oui.
Ouais.
Donc c'est pas un épiphénomène limité.
Non. Je pense que c'est en train de malheureusement généraliser et la loi travail va pas aider non plus.
Non, la loi travail va pas
tu,
aider.
Tu
ça,
nous
c'est
as
sûr.
Pas parlé de temps de travail, d'horaire de travail, de travail du dimanche. C'est parce que c'est un problème qui se pose pas.
Alors nous, le travail du dimanche, tous les magasins ne sont pas concernés.
Mm-hmm.
On a 3 ou 4 magasins qui sont concernés sur 25.
Mm-hmm.
Voilà. Donc nous, on essaie de faire pression là-dessus.
Mm-hmm.
Mais bon, vu que l'accord qu'ils ont signé a l'air plutôt correct.
D'accord.
Donc on n'a pas trop insisté.
Mm-hmm.
Mais après, on a bien fait comprendre que si l'accord qui était signé n'était pas respecté, on ferait en sorte de
faire sauter, quoi.
Voilà, c'est ça.
Bien sûr. OK. Un accord correct, c'est estimé comment? C'est en fonction des contreparties qui sont données.
Bah voilà, c'est 100% payé double,
ouais.
Et également le jour de repos supplémentaire.
D'accord. Donc c'est le minimum, ça.
Voilà,
c'est minimum,
sinon c'est pas acceptable.
OK. Mm-hmm.
Voilà.
Non, je parle de ça parce que le secteur du commerce est l'un des plus concernés par des problèmes de temps de travail ou de travail du dimanche notamment. Et à ce propos, moi je conseille la lecture d'un article qui est paru dans Économie Statistique en juillet 2016, qui est très bon, Jean-Yves Boulin et Laurent Lénard, où on comprend des choses sur les conséquences du travail du dimanche, des choses pas toujours rendues visibles.
D'accord.
Notamment sur la socialisation, les répercussions sur la vie familiale, etc. Une étude très documentée.
Donc ça, c'est le magazine
dans Économie et Statistique, juillet 2016.
D'accord.
D'ailleurs, par rapport à ça, nous, un jour, avec Sud Commerce, on avait fait une distribution de tracts sur l'avenue Rivoli. Mm-hmm. Et on avait un peu sondé les différents magasins de l'avenue. Mm-hmm. Et au niveau du pourcentage de rémunération au niveau du dimanche, ça allait de 100 à 0, quoi. Tu vois, dans une enseigne 100%, une autre 50%, une autre 25% et une autre 10%.
D'accord.
Donc c'était et ça dans la même rue, hein.
Ouais. C'était à l'époque de la du passage de la loi Macron, c'est
voilà,
ça.
Voilà,
c'est ça. Ils voulaient assouplir à tout prix le travail du dimanche.
Voilà.
Voilà, c'est ça.
Ça nous permet une piqûre de rappel. Avant la loi travail, la rémunération des heures supplémentaires était majorée de 25% pour les premières 8 heures, 50% pour les suivantes, sauf si un accord de branche s'y opposait. Et la loi travail fait sauter cette condition. Mmh. C'est-à-dire qu'un accord d'entreprise peut diminuer la majoration des heures supplémentaires, même si l'accord de branche s'y oppose.
Ouais. Parce qu'un patron qui est sur la même rue, il va se dire, attendez, moi je paye 50%, l'autre il paye 25%, pourquoi je vais payer 50%?
Eh ben, ça tombe bien ton intervention, parce qu'on va justement chanter un patron qui nous parle de sa petite entreprise et qui va nous expliquer pourquoi lui il veut absolument mettre la pression sur ses salariés. C'était donc Alain Bachung avec Ma Petite Entreprise. Alors, on voit le stress aussi qu'il y a sur que peuvent vivre les patrons de franchise, ou les patrons d'enseigne, les directeurs de magasins, et qui font que ils répercutent cette pression sur les salariés. Hein. C'est ça qu'on voit quotidiennement en réalité.
Je pense que c'est ça, oui.
Ouais, c'est ça. Et donc lui, il est obnubilé par son taux de profit, par sa boîte qui doit tourner absolument à tout temps, et donc il oublie tout le reste en réalité.
Oui, les employeurs aujourd'hui, ils pensent systématiquement de bénéfices, c'est le maître mot qui compte pour eux aujourd'hui. L'aspect humain est totalement délaissé.
Ouais. Et c'est ce qu'on voit aussi à un niveau macro, c'est-à-dire que là, on a fait effectivement dans les enseignes, on est allé dans les enseignes pour voir ce qui se passe un peu. Mais au niveau macro, c'est-à-dire notamment au niveau des décisions politiques, c'est en avant vers l'assouplissement, en avant vers les droits des employeurs au détriment des droits des salariés. Alors justement, sur ce sujet, on va passer l'interview de Laurent, donc de Sud Commerce, hein, que tu connais, ouais, que tu connais bien, et qui va nous parler, lui, des conséquences prévisibles de la loi travail et de la bagarre qui est menée pour éviter l'application des décrets qui mettent en branle toute la mécanique de la loi travail. Voilà. Laurent, est-ce que tu peux te présenter rapidement ?
Laurent de Gousset, donc je suis du syndicat Sud Commerce.
Mm-hmm. Et donc aujourd'hui, on va parler ensemble de la dégradation des conditions de travail et de la situation des salariés du commerce suite au passage de la loi El Khomri, ce qui est prévu et ce qu'on peut encore bloquer. Voilà, c'est un peu de ça dont on va parler.
Alors dans la loi, il n'y a pas des dispositions qui seront propres à nos secteurs, mais on est dans une situation qui est entre guillemets pas bonne. Et donc, je vais m'attarder sur un certain nombre de points et les déclinaisons concrètes que ça va avoir dans le secteur du commerce.
Ouais.
Un point qui est très important chez nous, c'est le temps partiel, parce qu'il y a le poids du temps partiel est fort, comme les métiers du commerce sont essentiellement des métiers féminins, donc qui sont à 80% entre guillemets à temps partiel. Et le cœur entre guillemets de la loi El Khomri, c'est la redéfinition complète de ce qu'est le temps de travail. Et donc en particulier, il y a une disposition relative au temps partiel, mais ça pourrait aussi concerner d'autres branches, comme je sais, particuliers, employeurs, la sécurité, le nettoyage, où ce qui était l'exception va devenir la règle. Je m'explique. Actuellement, quand on est salarié à temps partiel, on bénéficie de ce qu'on appelle un délai de prévenance, c'est-à-dire on doit communiquer les horaires aux salariés au plus tard 7 jours. Donc on sait de semaine en semaine, on connaît par avance ses jours de travail, mais on sait que tel jour, parce que c'est inscrit dans le contrat de travail, on travaillera, on fera ses 4 heures de telle heure à telle heure, etc. Et tout. Il y avait la possibilité, c'est une dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles, exemple, le collègue est malade, s'il te plaît, je te demande de faire ses horaires à sa place, de ramener ce délai à 3 jours. Avec la loi travail et donc avec les nouvelles dispositions relatives au temps de travail qui fixent l'ordre public, ce qu'on appelle un ordre public, qui fixe ce qui est renvoyé au champ de la négociation, et si la négociation n'aboutit pas, le droit supplétif, c'est-à-dire le droit tel qu'il existe actuellement. Eh bien, comment ça va fonctionner ? Oui, quand on est à temps partiel, il y a un délai de prévenance, ça c'est l'ordre public. La négociation par voie d'accord, ce délai pourra être amené à 3 jours maximum, et à défaut d'accord, eh bien on en restera aux dispositions actuelles.
Donc ça veut dire... Donc si je comprends bien, on avait une règle protectrice qui devient moins protectrice si le patron veut.
La règle est amoindrie, et si le patron veut, et si le ou les syndicats dits majoritaires signent un accord en ce sens. La grosse difficulté, c'est que on a un principe, et le principe entre guillemets perd de sa force, est vidé au fur et à mesure de sa substance. Donc ça, c'est quelque chose qui va directement impacter, une nouvelle fois, parce qu'il y a surreprésentation du temps partiel dans les différentes branches qu'on couvre, ça va directement impacter les salariés du commerce, en plus les salariés les plus vulnérables, y compris parfois qui peuvent enquiller deux temps partiels dans deux boîtes, dans deux boîtes différentes. Donc bonjour pour jongler les horaires, donc ça va effectivement davantage détériorer les conditions de travail de ces salariés.
Mais il faut un accord.
Mais il faut un accord, le seul verrou c'est l'accord. Pour le moment, j'ai pas eu connaissance d'accord, mais enfin... Faut pas rêver, il y en aura. Un cas très concret, par contre, là, d'application de la loi travail depuis le 1er janvier. C'est ce qui s'est passé à la FNAC. La FNAC, rappelez-vous, la saga du travail du dimanche. L'accord qui n'avait pas pu rentrer en application l'an dernier, parce qu'on était sur les anciennes règles de validité des accords, à savoir que pour qu'un accord soit signé, pour que ça soit valable, il faut qu'il soit signé par un ou des syndicats représentant au moins 30% des personnels lors des dernières élections, et qui ne rencontre pas l'opposition de syndicats représentant eux 50%.
Qu'est-ce qui a changé ?
Eh ben, on a mis fin. Maintenant, aujourd'hui, pour qu'un accord soit majoritaire, effectivement, il faut qu'il recueille plus de 50%. Le paysage syndical a un petit peu évolué à la FNAC. Il y a eu des élections depuis dans le groupe FNAC, d'ailleurs. Et l'accord qui n'avait pas pu voir le jour l'avant-dernier, finalement, vient de voir le jour. Et avec la subtilité suivante, c'est que la loi travail, dite loi El Khomri, désormais, dit que pour les organisations syndicales qui ont recueilli moins de 10%, c'est-à-dire qui ne sont pas représentatifs, eh ben on ne tient compte, entre guillemets, qu'en brut, des résultats de ceux qui ont obtenu 10%. C'est pour ça qu'on se retrouve à la FNAC. Qu'est-ce qui fait que par magie, entre guillemets, en tout cas par application de la loi travail, cet accord sur le travail du dimanche et un certain nombre de FNAC ouvriront tous les dimanches à partir du mois de mars, c'est que les organisations syndicales, donc CFDT, CFTC, CGC, qui de mémoire représentent en tout cas, si on prend dans un calcul, 45%, comme on a exclu Force ouvrière qui fait moins de 10% désormais au niveau du groupe, et malgré le poids de la CGT encore et de Sud, eh bien je crois qu'ils font 51,23%. Donc c'est
d'accord.
Super.
Par la magie de la loi El Khomri.
Voilà, ça c'est une déclinaison très concrète, voilà. Ouais. Hein, là où on pensait qu'une disposition phare de la loi El Khomri, le référendum qui justement vise à faire adopter des accords minoritaires, c'est que malgré ces différents trucs, malgré le chantage à l'emploi, aux conditions de travail, etc., on n'arrivait pas à décrocher ces fameux 50%. L'option référendaire qui peut être enclenchée par des syndicats minoritaires, on le sait parce qu'en particulier, le patron de la FNAC a été pleuré dans le bureau de Madame El Khomri, etc., en disant ils sont vilains, mon accord sur le travail dominical. Et donc on sait très bien que cette disposition, ils n'ont même pas eu besoin d'y recourir. Il a suffi de ce tripatouillage arithmétique pour que cet accord soit possible. On a aussi dans la loi El Khomri, donc ils ont revu. Le régime de ce qu'on appelle l'inaptitude. Ouais. Et c'est vrai qu'on est dans un secteur où beaucoup de gens sont cassés, entre guillemets, par le travail. Je vais pas vous faire pleurer, mais vous avez vu tous les cas dont d'ailleurs les médias se sont emparés. C'est dur d'être caissière, ça se passe très mal quand on est caissière. Il peut arriver des choses graves, on porte des charges importantes, etc. et tout. Donc cette loi va aussi favoriser, entre guillemets, l'inaptitude, enfin va faciliter l'inaptitude en tout cas pour les employeurs et réduire encore le champ des recours possibles, les obligations de reclassement.
D'accord, donc l'inaptitude ça va devenir quoi en fait ? Plus facile de virer son salarié pour inaptitude ?
Il est inapte, donc j'ai pas d'effort de reclassement particulier à faire.
D'accord, ça simplifie cette partie-là en fait.
Voilà, ça simplifie cette partie-là et ça rend par contre beaucoup plus ardu les recours. Là où avant, en gros, c'était des recours internes, maintenant, c'est des recours qui se judiciarisent, qui doivent être portés dans un délai extrêmement réduit de 15 jours devant les prud'hommes, avec intervention d'un médecin expert, etc. Enfin, ça devient aussi compliqué que, par exemple, quand on est victime d'un accident de la vie, d'un accident de la route, etc., ça va devenir une véritable usine à gaz. Tout ça, évidemment, avec un aspect dissuasif pour les salariés.
C'était pris en charge par l'inspection du travail, les recours avant.
Voilà, bah ça ne l'est plus.
Ça ne l'est plus, d'accord, c'est ça la différence.
Okay. Voilà, voilà donc par exemple des déclinaisons très concrètes ou en cours ou à venir de cette loi travail. Alors ce qui m'amène à un deuxième sujet, c'est que alors certes il y a plus des dizaines de milliers de personnes dans les rues, etc. Ça tout le monde l'aura bien noté. Donc c'est vrai que la bataille s'est plutôt déplacée sur le terrain juridique. Donc je peux peut-être en dire un mot.
Oui, justement.
Alors je prends une autre casquette parce que je participe. Donc nous Sud Commerce, on appartient à l'Union syndicale solidaire. Donc je participe aux travaux de la commission juridique qui est chargée entre autres de réfléchir aux recours possibles. Donc en ce qui concerne en tout cas les recours portés par notre organisation, alors je tiens à le préciser, normalement on s'attendait benoîtement à ce que au moins ces recours puissent être portés en commun avec les mêmes organisations avec qui on était dans la rue, CGT, Force Ouvrière, alors qu'on choisit une autre tactique, qu'on choisit de saisir l'Organisation Internationale du Travail, donc sur des points bien spécifiques pour dire qu'en gros cette loi viole un certain nombre d'engagements internationaux de la France en matière sociale.
Ce qui est le cas.
Ce qui est vrai, ce qui est le cas, mais enfin une démarche entre guillemets qui risque d'être longue, en tout cas avant de voir la fumée blanche et qui s'impose pas nécessairement à la France. En tout cas, voilà le choix qui a été fait. D'ailleurs, un choix qui est pas partagé, par exemple au sein de la CGT. On sait qu'un certain nombre d'organisations CGT ont aussi déposé des recours. Donc nous, on va dire sur une voie médiane. On a déposé des premiers recours sur un certain nombre de décrets. On avait une fenêtre de tir en plus en termes de délai, 2 mois pour agir. Donc ce sont des décrets relatifs là aussi au cœur de la loi, c'est-à-dire la redéfinition du temps de travail. Et on s'est aperçu, alors je ne vais pas essayer d'être trop technique pour nos auditeurs, mais il y a des choses en fait qui sont de la recodification dans le code avec ce système à 3 étages dont j'ai parlé, c'est-à-dire pas plus seulement la loi à la dérogation, mais la loi, le champ de la négociation collective et la règle de droit qui s'applique par défaut si la négociation échoue. Et donc, hormis un article ou deux nouveaux, entre guillemets, qu'on aimerait voir censurés, nous, on s'est adressé au juge national, en l'espèce le Conseil d'État. Et après réflexion, en fait, nous allons soulever les mêmes problématiques, c'est-à-dire des problématiques d'inconventionnalité.
Par rapport aux conventions
voilà, simplement au lieu de le soulever devant l'OIT, on va les soumettre au juge national, au Conseil d'État, parce que là aussi, sans être trop technique, de mémoire, c'est l'article 55 de la Constitution française qui dit que bah oui, les traités internationaux s'imposent à la France à partir du moment où elle en est signataire. De remettre en cause l'essence même de la loi. Et là, le deuxième recours qui va être déposé incessamment sous peu, c'est justement contre la fameuse question du référendum. Référendum d'entreprise, alors qui pose deux problèmes. Déjà, qui pose un problème démocratique, c'est-à-dire qu'on nous dit que désormais, pour qu'un accord soit valable, il faut que au moins 50%. La démocratie, en tout cas telle qu'on l'entend, c'est la règle de la majorité, c'est 50+1. Voilà, etc. Mais quand même une exception qui permettra à des organisations syndicales minoritaires qui ne représenteraient que 30% des salariés, quand même de donner la possibilité de contourner les organisations syndicales majoritaires, donc qui peuvent aller jusqu'à 70%, la vox populi, en s'adressant directement aux salariés, mais alors de manière assez orientée, hein, c'est-à-dire que un protocole, les mises en place de la consultation qui sont uniquement définies entre ces organisations syndicales minoritaire et l'employeur évidemment qui a tout intérêt à ce que
il n'y a pas d'intervention là des autres organisations non posées à ce moment-là.
Voilà, alors que quand on fait une élection, je veux dire, tout le monde participe autour de la table, donc ça montre que déjà dès le départ les dés sont pipés, largement orientés sur une question. Évidemment, l'intérêt de l'employeur, c'est que le oui l'emporte, ça paraît évident. Voilà, donc déjà un premier problème de la manière dont ça va être organisé entre guillemets, et puis un second problème qui est plus large, un principe aussi constitutionnel qui est qu'on retrouve dans le préambule très progressif, parce qu'on était dans une situation sortir de la guerre avec un rapport de force tout à fait différent, avec une CGT extrêmement forte, le Parti communiste première force politique auréolée de son rôle dans la résistance, ou qui dit que les salariés effectivement participent à la gestion des entreprises par l'intermédiaire de leurs représentants. Donc une façon aussi de squeezer leurs représentants, et de surcroît leurs représentants qui sont quand même majoritaires, que eux-mêmes démocratiquement tous les 4 ans ils ont décidé de légitimer peut-être plus que telle ou telle organisation. Voilà, donc voilà les deux moyens.
Parce qu'en fait, les employeurs n'ont pas besoin d'un interlocuteur dans la durée. Ils ont besoin de prendre les salariés de vitesse et de leur imposer des choses dans l'urgence. C'est ça,
tout
en
à fait. Et faut pas se leurrer. C'est pour leur imposer des régressions, certainement pas des avancées sociales. Nous, je terminerai peut-être là-dessus. Nous, à Solidaires, évidemment, on est pour que les salariés s'expriment et s'expriment le plus souvent possible. Mais par exemple, dans cette option référendaire, on n'a pas prévu ce qu'on appelle la réciprocité. Nous, on est, donnons dans ce cas la possibilité aux syndicats majoritaires de dire, voilà, moi j'ai décidé de consulter les salariés, par exemple, est-ce que vous voulez ou pas des embauches supplémentaires, est-ce que vous voulez ou pas la mise en place d'un 13e mois qui fait défaut dans l'entreprise, et nous sommes bien d'accord, si le oui l'emporte, ça s'imposera à l'employeur. Mais malheureusement, voilà, il n'y a une conception de la démocratie que du côté des attentes de l'employeur, et certainement pas des attentes des salariés et des organisations syndicales qui les représentent en majorité. Ça marche surtout que ça ne marche que dans un sens, quoi.
Hein, d'accord. Voilà. Ok. Eh ben, donc ça veut dire que, alors, si je résume bien, hein, on a atteinte contre la médecine du travail des salariés, atteinte contre leur temps de travail et leur planning, atteinte contre leur droit, on va dire, à être représenté par des organisations majoritaires. C'est ça, hein, tout ça. Et donc on a une série de batteries
On a en fait un reformatage complet. C'est la loi, comme on dit que c'est la loi, enfin la loi dite El Khomri, mais c'est la loi travail, c'est la loi du travail, c'est-à-dire qu'on transforme le code du travail en une espèce de code de l'emploi ou le code de l'entreprise, où tout serait systématiquement déterminé par quoi ? La bonne marche, entre guillemets, la bonne marche de l'entreprise, l'intérêt dans la gestion, entre guillemets, de l'entreprise. Alors que je rappelle juste, le code du travail, c'est juste un code qui fixe les relations individuelles et collectives du travail. Et le code du travail, c'est la rançon de ce qu'on appelle la subordination. C'est-à-dire, moi, j'aliène, entre guillemets, ma liberté. Je suis, entre guillemets, sous votre commandement, sous vos ordres. Mais vous êtes là, entre guillemets, pour m'exploiter en échange d'un salaire. Mais tout ça, quand même, doit être borné, entre guillemets, par une série de droits. Donc, c'est d'ailleurs qu'ils ne sont pas descendus du ciel. Donc, c'est un résultat de lutte, de conquête, etc. et tout. Et donc, on fait fi d'une certaine manière de cette logique-là, avec en plus de surcroît en créant du dumping social. Alors là, c'est même pas d'un pays à un autre, hein. Ça peut être dans la même entreprise ou dans la même ville, deux entreprises qui pratiquent la même activité, mais à une rue de distance.
On l'a décrédibilisé dans les tribunaux, maintenant rendez-vous. On l'a décrédibilisé dans la rue déjà, maintenant rendez-vous devant les tribunaux, c'est ça en fait. On va la tailler en pièces.
Oui, en tout cas, pour le moment, c'est l'option, entre guillemets, c'est l'option qui s'offre. Après, évidemment, ça serait peut-être bien de reprendre le chemin de la rue, ça serait bien que tout ne soit pas happé, entre guillemets, par la séquence électorale qui s'ouvre, y compris parce qu'un certain nombre de candidats ont promis de revenir sur les dispositions les plus contestables de cette loi, voire de l'abroger et tout.
On s'en satisfait pas.
Voilà, petit rappel historique, je rappelle que les congés payés, par exemple, ne faisaient pas partie des revendications et du programme porté par le gouvernement du Front Populaire.
Voilà. Merci pour ce rappel, Laurent. À bientôt.
Oui, avec la loi travail, c'est pas fini. Dis donc, Laurent a parlé de quelque chose d'important, mais un peu vite, c'est le changement intervenu avec la loi travail concernant l'intervention de l'inspection du travail en matière d'inaptitude. Est-ce que tu peux mieux nous l'expliquer ?
Ok, alors avant la loi travail, le régime était le suivant. Quand il parle de recours interne, en fait, il parle d'un recours contre une décision d'avis médical, donc l'avis du médecin du travail, donc qui peut déclarer inapte ou apte avec restriction ou apte. Et ça ne fait pas forcément l'affaire du salarié. Il peut, pour des raisons X ou Y, vouloir être déclaré inapte alors que c'est pas le cas, ou bien contester l'inaptitude qui lui est imposée. Et donc dans ces cas-là, normalement, enfin avant la loi travail, il avait la possibilité de faire un recours devant l'inspection du travail, dans les formes d'un recours administratif, c'est-à-dire 2 mois pour faire recours, et ensuite un traitement qui est géré par une administration neutre, sachant que à partir du moment où l'administration est saisie, elle doit rendre elle-même diligenter l'enquête, elle-même faire appel aux compétences nécessaires, donc les médecins inspecteurs régionaux, et pour rendre un avis dans un délai contraint. C'est-à-dire que à partir du moment où on saisissait l'inspection du travail, la part de procédure du salarié était terminée. C'était géré, la suite était gérée par l'administration.
Et il y avait un délai de 2 mois.
Alors là, ce que nous a expliqué Laurent, c'est que le délai est réduit à 15 jours. déjà 15 jours pour contester l'avis. Déjà, il faut savoir vers qui on se tourne, parce que 15 jours, c'est parfois à peine le temps de connaître ses droits. Donc, déjà, le délai est prescrit. Et puis, en plus, c'est une procédure devant les prud'hommes. C'est-à-dire que c'est une procédure où on doit monter son dossier et le défendre soi-même. C'est, les prud'hommes ne font pas de la défense, ils font du jugement. Et donc, il faut présenter toute la documentation devant les prud'hommes et donc et là faire intervenir des spécialistes, mais à sa demande, quoi. D'accord. Et donc c'est beaucoup plus. En fait, effectivement, ça se rapproche d'une procédure civile standard ou d'une procédure contre un accident de la vie ou contre son assureur ou des choses comme ça. Mais on n'est plus du tout dans un cadre protégé là.
Donc, je pense à Moussa qui est défenseur syndical. C'est quelque chose qu'il aura un jour à traiter, sans doute. Enfin, les questions d'inaptitude, pour l'instant, vous...
Certainement, mais j'espère pas tout de suite parce que c'est pas évident. Je voulais revenir sur ce que tu disais. Cette loi aussi, j'ai l'impression qu'elle veut complexifier les choses par rapport à des gens engagés comme Laurent ou d'autres personnes. J'ai l'impression qu'on veut complexifier, on veut ajouter de la difficulté à la difficulté, en fait.
Mais pour les salariés seulement.
Pour les salariés et pour les défenseurs éventuels, les délégués. Oui. On veut vraiment dissuader, on va dire.
On veut dissuader, oui, c'est ça. On veut dissuader la contestation.
Voilà, on veut dissuader un maximum, mettre le couvert, quoi.
Bah, à ce sujet, dans un autre ordre d'idée, avec la loi Rebsamen qui a modifié la procédure prud'homale, en fait, il y a une baisse considérable des saisines prud'homales. On est à des chiffres, je crois que c'est moins 40%.
Ouais, c'est ça.
Donc, faciliter l'accès au droit, pas tant que ça, en fait.
Surtout qu'aujourd'hui, maintenant, quand tu fais ta saisine, il faut anticiper sur les pièces, etc. Il faut
faire une saisine complète, voilà, avec la mémoire complémentaire. Enfin.
Et si dans la saisine, il y a quelque chose qui ne va pas, ils peuvent radier. Hein, donc, non, c'est. Après, les gens, ils veulent professionnaliser le truc, quoi.
Ouais. Professionnaliser et puis mettre à l'écart. Hein.
Voilà. D'où l'importance que se multiplient les lieux de soutien et de résistance. J'en profite pour rappeler qu'une permanence conditions de travail et santé existe depuis janvier de cette année à la Bourse du Travail, le premier vendredi de chaque mois de 17h30 à 20h30. C'est ouvert à toutes les travailleuses et travailleurs de tout statut.
Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, on va pas se quitter sans parler un peu de ton cas. Hein. On a mangé un peu de temps, c'est vrai. Mais tu nous avais parlé d'un droit d'alerte sur un salarié qui était victime de harcèlement, en fait, de par sa hiérarchie. Et donc, toi, tu t'es interposé, t'as fait ton enquête, mais il y a eu des suites en ce qui te concerne, si j'ai bien compris.
Oui, alors moi, j'ai fait une enquête pour ce jeune homme, conjointement avec la DRH et un autre élu sud, voilà, dans un souci de transparence, bien sûr, parce qu'en absolu, on aurait pu très bien faire notre enquête de notre côté, voilà, mais on voulait que la DRH soit là pour qu'elle-même constate...
les mêmes choses que vous.
Voilà, les mêmes choses que nous, comme ça, qu'on se mette d'accord. Donc moi, j'ai diligenté cette enquête le 17 octobre 2016, on a interrogé les employés et les encadrants. Bon, ce qu'il en ressortait de tout ça, lorsqu'on interrogeait les employés, les collègues qui étaient directement en lien avec cette personne-là, c'est qu'effectivement, il y avait des agissements douteux de la part des encadrants. Et lorsqu'on interroge les encadrants, ils nous disent que tout ça était fabulation et mensonge. Donc chacun se renvoie la balle. Donc très bien, il n'y a pas de problème. Donc le peu de temps après, j'ai fait un compte-rendu où je fais état de tout ce qui m'a été rapporté par les uns et par les autres. Et à la suite de ça, la situation a commencé à se gâter. Donc le salarié qui avait demandé cette enquête se retrouve convoqué le 14 novembre 2016 à un entretien préalable à licenciement où il aurait eu un agissement répréhensible, je précise, et il aurait éventuellement tripoté une de ses collègues.
Mais ça, on n'avait pas entendu parler de ça avant l'enquête, avant l'alerte.
Si, alors j'ai oublié un passage, c'est que un des encadrants que j'avais interrogé ce jour-là, le fameux 17 octobre 2016, me balance une bombe en me disant oui, il a eu un acte déplacé, il aurait tripoté une collègue. Donc moi, la première question que je lui ai posée, c'est est-ce que le jour des faits, est-ce que tu as pris, est-ce que tu as entendu les deux personnes concernées? Donc lui me dit que non, qu'il a entendu uniquement la demoiselle qui était traumatisée. Et moi, ça m'a interpellé. Je lui dis pourquoi tu n'as pas pris la personne incriminée? Parce que je sais pas, hein, quand t'es interpellé par la police, on entend le plaignant et le prévenu. Je sais pas. Donc lui m'a dit non, j'ai pas entendu la version des faits du de l'accusé. Mm. J'ai entendu que la victime. Mm. Alors, je fais, en fait, tu te bases uniquement sur une appréciation et pas sur l'autre.
D'accord. Voilà. Donc t'as un peu mouillé la chemise, mais ensuite c'est toi qui as été dans la ligne de mire.
Bah, ce salarié ensuite a été licencié. Ouais. Donc, à la suite de ça, il y a eu un entretien. Bah, généralement, quand t'es en entretien après la licenciement, en général, t'es dehors. C'est juste pour la forme, hein, on fait ça pour la forme, mais en général, t'es dehors. Donc, moi, à la suite de ça, alors, si je dis pas de bêtises, le 29 novembre 2016, j'ai une convocation qui arrive chez moi. Oui, vous êtes convoqué à un entretien pour une enquête.
D'accord.
Donc, c'est un droit d'alerte qu'on a fait. À mon encontre.
Contre toi.
Donc là, c'est un délégué du personnel encadrant qui a fait ce droit d'alerte.
D'accord.
Voilà.
Et qu'est-ce qui t'est reproché ?
Donc je suis allé au siège, donc un peu interloqué, donc j'y vais et tout, je viens insister. Hein. Voilà. Normal. Donc on me reproche d'harceler l'équipe encadrante de Créteil. On me reproche d'avoir menacé par voie téléphonique des encadrants, d'éventuellement les menacer dans leur vie privée, d'avoir dit que la responsable de ce magasin était raciste. Il y a des gens qu'on a même dit qu'il y a des gens qui prenaient des tranquillisants parce que ma présence les stressait.
D'accord. C'est un danger public, c'est ça en fait.
Ouais, c'est un peu ça.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On dit que j'avais des bâtons, parce qu'on a fait une manif sur le magasin pour protester contre les licenciements de ces personnes. On dit que j'avais des bâtons, que j'insultais, que je demandais des comptes au manager, que je les rabaissais. Hein, voilà, tout est passé en fait.
Tu tenais tes drapeaux au bout d'une hampe, c'est ça?
Je pense que c'est ça, mais ils ont dit.
Ah oui, d'accord, voilà, ouais, effectivement.
C'est ça, mais.
C'est drapeau, quoi. Okay,
voilà. Donc voilà. Donc, puis, 10 jours après, c'est-à-dire le 9. J'ai une convocation du CHSCT.
D'accord.
Voilà. Une deuxième enquête. Donc, une semaine après, ils ont requis une enquête. Où, ce jour-là, il y avait présence des membres du CHSCT, donc secrétaire et secrétaire adjoint, et d'un huissier de justice qui était présent.
Ah, ils ont mis les gros moyens.
Au cas où, si je pars en freestyle, comme on dit. Ouais. Donc, on me dit encore la même chose. Vous harcelez les managers, vous menacez les managers, etc. Des managers disent que quand ils voient un groupe de personnes un peu basanées, ils ont peur.
Ah ouais. Ah oui, ils ont dit ça.
Ah oui, non, c'est marqué dans un compte rendu noir sur blanc.
Bravo.
Donc moi j'ai regardé la DRH, je lui ai dit écoutez, j'espère que vous vous rendez compte de ce que vous mettez. Je sais pas comment vous pouvez mettre un truc pareil parce que c'est quand même assez grave.
Bah oui.
C'est quand même ça prête à, je sais pas. Donc moi je pose la question à un membre du CHSCT, je lui dis qu'est-ce que ça veut dire, ça sous-entend quoi, vous m'expliquez. Expliquez-moi. Ça veut dire qu'en fait, moi, je suis basané et que je peux être amené à aller agresser les gens, venir en banc dans l'attroupement, venir agresser les gens en magasin, c'est ça? Ah non, c'est pas ça. Bah, excusez-moi, ça veut dire quoi alors?
D'accord.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Donc, grosso modo, si je comprends bien, alors tu nous avais dit en off qu'il y avait 50 pages de dossier, c'est ça? Ils ont écrit un roman, quoi.
Ouais. Moi, je l'ai lu deux fois.
Ouais.
Bon après, j'ai arrêté parce que c'était énervant.
Ouais, faut pas s'infliger ça non plus.
Mais c'est quoi ces 50 pages? C'est des témoignages?
Ouais, des témoignages, des on-dit, quoi. Ce qui est marrant dans les témoignages, c'est qu'il n'y a pas de nom. C'est témoignage 1, témoignage 2, témoignage numéro 3.
D'accord.
Donc moi en gros, quand j'ai lu, j'ai identifié les gens.
Ouais, mais bon.
Mais il n'y a pas de nom. Donc quand j'ai demandé à la DRH pourquoi il n'y avait pas de nom, bah, c'est pour protéger les personnes.
Ah oui, d'accord.
Pour protéger les personnes. Ouais. Donc je suis susceptible d'aller.
Parce que là, pour le coup, dans les démarches initiées par la direction, on va dire, là, c'est important de protéger les personnes.
Oui, ouais.
Généralement, quand c'est des plaintes individuelles dans l'autre sens, ça l'est moins, non?
De toute façon, pour moi, tout ça, c'est instrumentalisé. Je leur ai dit. Hein. Je leur ai dit que pour moi, c'était une mascarade. Hein. Je leur ai dit, c'est une grosse mascarade.
D'accord.
Je leur ai dit un texte.
Ok. Donc tu as des mandats. Hein. T'es délégué du personnel, membre du CE et défenseur syndical. Donc tu as une protection. Logique.
Alors, une protection, oui.
Et tu passes devant l'inspection du travail.
Alors, à la suite de ça, à la fin du rapport, ils ont dit que pour que le climat dans ce magasin revienne à la normale, il fallait demander mon licenciement. Ah, c'est ce qu'ils ont fait, hein. Donc, à la suite de ça.
Licenciement pour motif climatique.
Voilà. Donc, à la suite de ça, on a fait un petit mouvement,
pour protester
contre
nous,
ces agissements-là. Bah, ils ont pas aimé. On
non.
a fait ça en plus le premier week-end de Noël. Et trois jours après, j'ai eu le droit à ma mise à pied à titre conservatoire.
Dans le cadre de la procédure qui est déjà initiée, en fait.
Voilà.
D'accord, ok.
Donc, j'arrive au magasin un jour, mon responsable du magasin me dit, voilà, Moussa, j'ai quelque chose à te remettre, et bon, ben, ma lettre, voilà, t'es mise à pied, à compter d'aujourd'hui. Ça, c'est arrivé le 22 okay. décembre, je suis mise à pied, à titre conservatoire, jusqu'à le jour de l'entretien qui avait lieu le 9 janvier. Le 2 janvier, excuse-moi.
Le 2 janvier.
Le 2 janvier.
Bonne année.
C'est ça.
Ouais. Et donc, en fait, au final, ça a pas tenu très longtemps, hein, visiblement, l'inspection du travail.
L'inspection du travail, on n'était pas trop inquiets parce que on voulait voir quand même ce qu'ils avaient parce que le rapport était quand même costaud. Donc, c'était, s'ils font ça, ils ont quand même un petit peu de billes. Bah, le jour où on était inspecteur du travail, on était assez surpris parce que du coup, l'inspecteur nous a expliqué qu'il y avait 50 pages de conclusion pour 5 maudites attestations. D'encadrant.
D'accord, d'encadrant exclusivement.
Exclusivement. Même pas de, ouais, okay. Même pas de certificat médical, rien de tout ça.
D'accord. Et donc vide, l'inspection du travail refuse.
Bah, elle a refusé, la réponse est arrivée assez rapidement.
Ouais, ouais, apparemment. Ouais.
Donc nous, on lui a bien dit de prendre son temps, de bien analyser les choses. Donc lui, il a répondu assez sèchement, pardon. En disant que c'était pas fondé, qu'il y avait quand même un caractère discriminatoire, et que tout ça était lié entre l'enquête et la demande de licenciement, tout était lié en fait.
C'était lié à l'exercice du mandat.
Ouais, c'est lié. Il y a pas de voie de fait, il y a rien de tout ça.
Mais bon, alors si j'ai bien compris, quand même, même si l'inspection du travail refuse, la bataille elle est pas terminée. Vous avez décidé de continuer à vous battre avec l'équipe.
Oui, parce que l'employeur peut avoir un recours au ministère.
Ouais.
On peut pas l'exclure, voilà. Donc
faut maintenir la pression.
Faut maintenir la pression pour éventuellement éviter ça, parce que c'est un peu compliqué le ministère. Hein. C'est beaucoup politique, c'est très politique.
C'est très politique. On a vu avec par exemple Air France, on a vu avec d'autres dossiers où le ministère a pris le contre-pied. Alors juste très rapidement, hein, parce que là il nous reste un peu de temps, je voulais te poser un peu rapidement quelques peut-être des indices de comment est-ce qu'on se bagarre dans ces cas-là, vers qui on se tourne et quelles actions on peut mener. Est-ce que tu as 2-3 exemples?
Alors nous, ce qu'on a fait là la semaine dernière, on a fait une semaine internationale d'action contre Nouloukh. Donc on a fait ça du 6 au 12.
Ah ouais.
Bon, après ça va se prolonger. Donc pour faire rapide, on a fait des actions un peu partout en France.
Ouais.
Donc il y a eu Paris, Bordeaux, Lyon, Rouen.
D'accord.
Le Havre.
Paris, Bordeaux, Lyon, Rouen. Ok, donc dans plusieurs villes parisiennes.
Voilà, plusieurs villes de France.
Et simultanément, c'est ça vous
Non, à des jours, un jour par-ci, un jour par-là.
D'accord.
Voilà. Et également, on a été en Angleterre aussi. Également parce que Londres, Nouloukh est anglais.
Ouais.
Donc on a, à l'occasion de la TSS, la
Transnational
Strike.
Ouais, Strike, ouais.
Voilà.
C'est ça.
Donc on s'est permis de se rendre en Angleterre avec 4 camarades.
Bien.
On est parti au siège anglais, on était assistés.
Pour aller sonner les cloches du siège.
Voilà, on était assistés de camarades étrangers. Des Suédois, des Allemands, des Italiens, Espagnols, etc. Donc on est parti faire une action au siège social, le grand siège du Nouloukh, Angleterre.
Contre le harcèlement, la discrimination.
Bah eux, on sait pas s'ils sont au courant de ce qui se passe.
Ouais.
Mais on voulait quand même les sensibiliser là-dessus. Ouais. On a même traduit un tract en anglais, etc., qu'on leur a donné. Voilà. Et on espère que ça va pouvoir apaiser les choses, parce que nous, ce qu'on veut, c'est retrouver un climat sain, normal.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu tendu, quoi.
Voilà, ok. Et donc, dernier petit point. En parallèle donc de ces actions, donc à l'envergure nationale et internationale, on a vu, hein, donc ne pas lâcher la pression sur Nouloukh. Il y a une pétition en ligne qui continue à être signée, hein, pour ta défense, c'est ça?
Oui, une pétition en ligne. D'ailleurs, je la connais pas par cœur.
D'accord. Elle est sur quel site de pétition?
Alors, elle est sur Mes Opinions.
Mes Opinions. D'accord. Voilà. Donc Mes Opinions, et c'est
non licenciement de Moussa.
Voilà, non licenciement. Donc on peut le retrouver sur le site de Mes Opinions.
Voilà.
Et non licenciement de Moussa. D'accord.
Voilà,
donc
ça.
Faut continuer à la signer. Faut pas lâcher la pression.
Il y a pas de problème. Faut la signer. N'hésitez pas. Il y a pas de problème.
Ok. Ben, je pense que ça y est, on a fait le tour, hein, de la question. Voilà. Donc je pense que les salariés du commerce sont contents d'avoir un peu cet encouragement à la lutte, hein, cet encouragement à la bagarre. À la fois à tous les niveaux, conditions de travail, défense des droits, etc.
Parce que là, je crois que aujourd'hui, ça va pas dans le bon sens. Hein. C'est compliqué.
Faut continuer à se bagarrer, c'est clair.
C'est ça.
Ben, on te remercie, Moussa. Hein.
Ah, merci de m'avoir reçu.
Il n'y a pas de souci.
Merci, Moussa.
Merci.
Et à dans un mois ?
Dans un mois, avec une. Ah oui, juste une petite émission. Une émission spéciale, donc, puisque c'est, ce sera autour de la journée de la femme, des femmes, des luttes des femmes.
Oui, et tu voilà. parleras moins.
Et je, ben, bien sûr.